d'abord, évidemment, votre intérêt, c'est le moins qu'on puisse dire, pour la psychanalyse me pousse à vous poser cette question. Arte a eu le bonheur de connaître un grand succès, un triomphe avec cette série En Thérapie, 35 épisodes, 41 millions de visionnages pour cette série. Vous l'avez vue, est-ce qu'elle correspond effectivement à la réalité? Et comment expliquez-vous cet engouement, justement, pour une série qui parle de psychanalyse?
D'abord, je trouve que la série est très réussie. J'avais vu la série israélienne qui était déjà réussie. Ce psychanalyste est évidemment touchant. Il a lui-même les mêmes problèmes que ses patients. C'est très bon. C'est très bien. Alors maintenant, l'engouement, c'est une vraie question. Ça vient au moment où il y a eu des campagnes pendant 20 ans contre la psychanalyse, des insultes, des injures, un anti-freudisme radical. Et d'un coup, au moment où, précisément, on n'en veut plus, plus personne ne veut aller en analyse, il y a des multiples thérapies, il y a un engouement pour la psychanalyse, parce qu'il est vraiment psychanalyste, c'est ça. Alors ça ne m'étonne pas, ça veut dire que c'est devenu un objet d'histoire. Et c'est devenu, on a un regard bienveillant maintenant sur quelque chose qu'on a pratiquement éliminé, éliminé de notre société. Alors, que penser? En tout cas, c'est très bien.
Et cet objet d'histoire et cette réhabilitation justement de la psychanalyse, vous y avez largement participé, Elisabeth Rouniesco. On va regarder ça tout de suite avec votre portrait. Comme chaque samedi, il est signé Philippe Ridet et il est lu par Sandrine Le Calvez.
Ma chère Elisabeth Rouniesco, le tocsin de Notre-Dame fêtant la libération de Paris avait à peine cessé de résonner ce 10 septembre 1944 que vous voyez le jour. Vous le dites vous-même, je suis née sous le signe de la victoire. Victoire in extremis, votre père, médecin généraliste d'origine roumaine, a 61 ans. Votre mère, psychanalyste, neurologue et pédiatre, 41.
Ma mère était une des pionnières de la psychanalyse d'enfants en France. Elle s'est occupée des enfants abandonnés dans les années 50.
Deux gouttes de Joy de Patou suffisent à vous la rappeler. Ils sont tous deux issus d'une famille juive bourgeoise et anti-pétainiste. Les beaux quartiers sont votre bac à sable. Vous avez 9 ans quand ils divorcent. Plus curieuse, plus mûre, plus indépendante que vos amis, vous brillez à l'école, mais ne supportez pas l'institution. Vous changez de lycée tous les ans, préférez voir des westerns à la cinémathèque que bûcher vos cours. Rebelle, papa s'inquiète. Et si vous étiez bolchevique? Années 60, vous participez à la marche sur Washington en 1963. Vous enseignez 2 années en Algérie, vous menez des études de lettres à la Sorbonne. Années 70, adhésion au Parti communiste, doctorat. Vous fréquentez Aragon, Deleuze, Michel de Certeau, Derrida, Canguilhem, vous dévorez Foucault. La plume ou le divan? That's a question. Le refus de 2 éditeurs vous détourne du roman. 8 ans d'analyse vous incline à pratiquer à votre tour, comme votre mère, comme Lacan, un ami de celle-ci. Finalement, vous conciliez les deux, devenant historienne de la psychanalyse.
J'avais envie de raconter une histoire compliquée, conceptuelle, doctrinale, enfin difficile, d'une façon assez romanesque.
Mais les temps changent. L'universalisme est passé de mode. Aux engagements émancipateurs de vos jeunes années succède la revendication de l'identité, sociale, sexuelle, racisée. On couche toujours son moi sur le divan, mais on revendique aussi son genre. Et ça, ma chère Elisabeth, ça vous énerve, mais grave.
Pas mal.
C'était... Quel parcours.
À chaque fois, je vois ma mère, ça m'émeut.
Bien sûr. Justement, cette ascendance... Elisabeth Rouniesco, votre livre, vous le commencez par cette question d'ailleurs, qui suis-je? Vous racontez un dialogue que vous avez avec un intellectuel, c'est à Beyrouth en 2005, qui vous dit que vous êtes en fait une orthodoxe roumaine, et vous dites non, je suis française. C'est ça l'universalisme, c'est cette assignation identitaire que vous combattez?
Oui, mais sans être une universaliste fétichiste. Mm-hmm. Je pense qu'il faut les deux, de la différence et de l'universel. J'ai commencé sur cette histoire parce que c'était une réception magnifique dans cette ville que j'aime beaucoup, avec un journaliste plein d'esprit, cultivé. Je ne m'attendais pas à cette question. Et en fait, ça ressemble, c'est assez drôle la scène, parce qu'il me dit « je suis ravie d'accueillir une roumaine, je suis obligée de dire que je ne suis pas roumaine ». Et il me dit « alors une orthodoxe ». Je dis « je ne suis pas orthodoxe ». Ça tourne à une... C'est drôle d'ailleurs, parce que tout ça est très élégant. Et je comprends, le sachant, que évidemment, au Liban, il n'y a pas d'État laïque comme nous, on le conçoit, et qu'en effet, on est assigné forcément à une communauté. Et ça finit par... alors, d'autres se mêlent à la conversion. Et c'était vraiment, je crois, une des premières fois de ma vie où je dis « je suis française ». Ça ne m'était même pas venu à l'idée de le dire, puisque je le suis. Et donc, ça a été... Et je me suis dit « je vais commencer là-dessus », parce que c'est aussi un pays tragique qui paye ce communautarisme.
À propos d'universalisme, tous les combats féministes, antiracistes, étaient universalistes. Ils se sont transformés, d'où le titre de ce livre, hein, « Soi-même comme un roi ». Ils se sont transformés, toutes ces luttes se sont transformées comme un repli sur soi.
Oui. Le repli sur soi, ce n'est pas la différence contre l'universel. Le repli sur soi, c'est l'impossibilité de se penser autrement que dans sa communauté. Les sociétés humaines, j'ai parlé beaucoup de Lévi-Strauss, il faut fétichiser ni un universel, il y a de l'universel, ni refuser de la différence, parce que les sociétés sont différentes. Il faut trouver un équilibre. Alors, le repli sur soi, c'est évidemment très dangereux, dans tous les sens du terme. Et j'ai étudié là, en effet, comment ces assignations identitaires, ces revendications identitaires, après la chute du communisme, ont évolué depuis l'émancipation jusqu'à son contraire, c'est-à-dire finalement au repli, à la détestation de l'autre, à la guerre contre l'autre, etc. Et en effet, je crois qu'il faut, les critiquer, d'autant qu'ils se réclament de très grands penseurs qui n'ont jamais...
C'est ça justement, dans votre livre, vous réhabilitez quand vous parlez de ces penseurs qui sont Sartre, Foucault, Derrida. Vous dites qu'ils ont été à la fois insultés aussi par les tenants du grand remplacement, cette théorie, mais également aussi réinterprétés pour pouvoir rentrer dans des nouvelles cases, en fait, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de les réhabiliter. Si en France, on continue à les attaquer, à dire que Foucault, Sartre, Derrida sont les responsables de la décadence française, je crois qu'on est fou et qu'on est suicidaire, parce que c'est le patrimoine. Foucault est dans la Pléiade, il n'a pas été islamiste, il n'est pas pédophile. Donc tout ça, c'est complètement fou. C'est suicidaire. Ça veut dire qu'on attaque ce qu'on est nous-mêmes. Ce sont des penseurs lus, traduits dans le monde entier. Alors, qu'ils aient été réinterprétés jusqu'à l'outrance par les dérives identitaires, c'est exact. Ils n'étaient pas, eux, identitaires, mais ils se sont occupés des marges, des minorités, justement de quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à Sartre, qui était un engagement plus classique. Et comme je les ai presque tous connus, que j'étais leur élève, quand je vois à la fois qu'ils sont réinterprétés de façon effrayante et que de l'autre côté, à droite, vraiment, on leur vomit dessus, à tous. Il n'y a pas une journée sans qu'on les accuse de tout. Donc, il fallait faire un peu le point.
Il y a un paradoxe,
deux extrêmes.
Il y a un paradoxe qui est assez étonnant et compréhensible. Vous rappelez dans le livre qu'effectivement, Claude Lévi-Strauss, dans les années 50, a démontré l'inexistence des races. Il a démonté ce concept de race. Et c'est un terme qu'on voit ressurgir sous une autre forme aujourd'hui avec l'adjectif racisé que revendique un certain nombre de personnes victimes de discrimination. Est-ce que c'est une façon d'exhumer ce concept de race
et de façon dangereuse ? Je pense que c'est une vraie dérive, parce que scientifiquement, la race n'existe pas. Il y a cette fameuse conférence de Lévi-Strauss. Je suis très Lévi-Straussienne. Hein. J'ai beaucoup d'admiration, je l'ai bien connu, j'ai beaucoup d'admiration pour Lévi-Strauss. Et il fait cette conférence magistrale où il dit les différences, c'est des couleurs de peau, les différences, c'est des cultures. Il y a des cultures des peuples premiers, elles sont ni inférieures ni supérieures. Les cultures ne sont ni inférieures ni supérieures les unes aux autres, mais la culture occidentale a évidemment la science avec elle, et donc il faut protéger les peuples en péril, c'est ça qu'il dit. Le fait que la race n'existe pas scientifiquement et que ce sont des différences de culture ou de couleur de peau, de pigmentation, ça n'empêche pas qu'il y a le racisme. Les sémites n'existent pas, c'est une invention du 19e siècle. Les Aryens n'existent pas. Donc on a fabriqué des théories, et évidemment, quand j'ai vu qu'on reprenait la notion de race sous la forme de la posture victimaire racisée. Je suis racisée, ça veut dire, dans ces dérives identitaires, je suis victime de racisme. Mais quand quelqu'un est victime de racisme, il doit se battre. Il a la loi avec lui. Il doit refuser d'être assigné à cette identité. Et quand on dit racisé pour désigner quelqu'un qui est victime de racisme, je trouve que c'est un enfermement dans une posture identitaire. Il faut refuser ce genre d'assignation. Et surtout, quand on se réclame de Aimé Césaire, de Frantz Fanon, des grands anticolonialistes, qui ont revendiqué, Césaire a revendiqué le mot nègre. Il l'a ennobli.
On a une archive à vous montrer, Elisabeth Roudinesco. Vous allez voir, c'est une psychanalyste, une pédiatre, l'une des plus célèbres de l'histoire.
Françoise Dolto, qui prend position, qui donne son avis sur la grande question en cette rentrée de 1963. Faut-il conserver le jeudi comme journée de repos pour les scolaires ou bien plutôt le samedi? Eh bien, les deux, mon capitaine, répond Françoise Dolto. Et elle dit pourquoi sur l'ORTF, le 19 septembre 1963, pour être exact. On la regarde.
Il est nécessaire de n'avoir rien à faire au moins une journée. Mais rien! C'est-à-dire perdre du temps, comme disent les parents. Mais aussi tourner, regarder les choses, réfléchir, bricoler, coudre. Perdre du temps, c'est vivre, ça. Et dans les villes, il n'y a plus jamais le temps pour cela. Même le jeudi des enfants est plein d'activités parallèles et nécessaires. Le dentiste, la gymnastique corrective, la leçon de piano, la vieille tante qu'il faut aller voir, la grand-mère, des activités obligatoires, le médecin, si ce n'est pas une composition à préparer, le jeudi n'est en fait pas une journée de vrai repos, sauf pour les tout-petits.
Prendre le temps. En a-t-on pris le chemin
bien
un peu contraint et forcé?
Oui. En analyse quand j'étais enfant.
Ah oui.
Mais ma mère réelle était deux personnalités de la psychanalyse d'enfants très différentes. Très, très différentes.
Et est-ce qu'on a pris le temps, là, avec le confinement? Est-ce qu'on a appris à prendre son temps? Est-ce que c'est une bonne chose?
Moi, non, je ne trouve pas. Je n'ai rien appris. Voilà. Le virus, c'est la pulsion de morale, est abrupte. Il faut s'en protéger. Je n'ai pas envie d'attraper ça. Pas envie de mourir d'un virus. Et j'écrivais mon livre. Si vous voulez, je comprends que pour les gens, c'était une très grande épreuve, surtout les gens qui vivent dans des appartements très, très étroits avec des enfants. Bon, moi, j'ai l'habitude de rester chez moi à écrire. Mais non, je n'ai rien appris. Voilà. Je n'ai appris qu'une seule chose, c'est que je rêvais de bistrot tous les jours. que de sortir. J'aime la ville, j'aime Paris.
Ces jours reviendront.
J'aime les bistrots, j'aime les voyages. Et bien sûr, bon. Mais d'un autre côté, je suis quelqu'un de raisonnable. Je savais que c'était impossible. Et voilà, c'est pour ça que j'accable personne, moi, dans l'histoire de ce virus. Ça nous a sauté à la figure d'un coup.
Un mot sur un sujet d'actualité, une polémique d'actualité, Elisabeth Roudinesco. Un syndicat étudiant, l'UNEF, en l'occurrence, a reconnu ces derniers jours l'existence de réunions dites non mixtes, c'est-à-dire des réunions réservées aux non-blancs. Et ceux qui défendent l'organisation de ces quelques réunions les présentent comme, en fait, des groupes de parole qui rappellent un petit peu ce qui a pu exister dans le mouvement féministe, justement, où des femmes pouvaient raconter les discriminations, les violences dont elles étaient victimes parce qu'elles étaient entre femmes. Est-ce que ce parallèle à la féministe que vous êtes, il vous semble légitime?
J'ai pas été féministe. C'était fait, moi, dans ma famille. La nièce de Louise Weil, ma mère était... La libération des femmes avait eu lieu dans ma famille bien avant. Donc, j'ai pas eu besoin de participer au mouvement féministe. Oui, ça ressemble. Sauf que, dans le mouvement féministe historique, ça n'a pas été revendiqué comme une théorie. Ça a été pratiqué parce qu'il y avait besoin de ce groupe de paroles non mixtes. Aujourd'hui, c'est théorisé. Ça change tout. C'est présenté comme une nécessité absolue. Eh bien non, je n'y suis pas favorable. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'il faille allumer tout le temps des feux de haine dans tous les sens. Il faudrait vraiment ramener de la sérénité à l'université. Bien sûr que c'est critiquable de faire ça, mais ce n'est pas la peine non plus de les traiter de tous les noms. Non, je ne suis pas favorable.
Ramenons de la sérénité, vous avez raison, du dialogue et de la nuance. Oui.